Bienvenue de ma part. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adrien. Je suis l'un des pasteurs assistants ici. Et j'ai la grande joie aujourd'hui de vous apporter un message sur l'un des passages les plus brillants dans la Bible. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous éclairer. Donc merci de prier avec moi avant de commencer. Nous te remercions, notre Père, pour ce texte magnifique qui nous rassure, qui nous motive dans la vie chrétienne, que tu puisses m'accorder les mots pour m'exprimer avec clarté, fidélité, avec conviction, que tu puisses être à l'œuvre dans chacun de nos cœurs, que personne ne quitte ces lieux ce matin sans avoir été rassuré, réconforté, motivé pour vivre pour toi de tout nos cœurs. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Il était une fois, dans un pays lointain, un bon roi et un orphelin rebelle. L'orphelin, un garçon de 12 ans, détestait le roi. C'est vrai que parfois il essayait de suivre les lois du pays et il n'hésitait pas à réclamer une récompense pour ses efforts. Mais ses efforts étaient superficiels quand même, car il déshonorait le nom du roi. Il s'opposait à ses projets et se donnait à toutes sortes d'activités criminelles. Et un jour, l'orphelin a fini en prison, condamné à mort, s'il ne pouvait pas payer pour les dégâts qu'il avait faits. Puis, au grand étonnement de l'orphelin, le roi a offert à payer le prix lui-même de le faire sortir de la prison, de l'adopter comme son propre fils pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Bouleversé, l'orphelin a accepté l'offre. Dans un coup, il a échangé la prison pour le palais, des vêtements ruinés pour des vêtements royaux, la peur pour la paix, l'inimitié pour l'amitié. Mais parfois, il se réveille la nuit, le cœur troublé. Est-ce que le roi avait vraiment payé le prix pour ses crimes? Il regarde ses robes, ses habits royaux. Je ne mérite pas d'être habillé ainsi. Et si je suis en période de probation, je veux honorer mon papa maintenant, mais j'ai du mal à respecter ses lois. Et s'il décide que j'ai eu ma dernière chance et il me chasse du palais? Pire, par moments, l'ancien esprit de rébellion monte dans son cœur. Parfois, il sort du palais la nuit pour aller rejoindre son ancien gang dans les rues. Ça sent si bien. Et au final, c'est pas trop grave, il est sous la grâce du roi maintenant, non? Mais le matin, il est honteux, découragé, même effrayé, et il se cache pour éviter le roi. Cette histoire est bien sûr notre histoire. Dans sa grâce infinie, Dieu le roi a offert de payer le prix pour nos péchés à la croix, pour que nous puissions désormais vivre en amitié avec lui. Et nous avons accepté cette offre par la foi. Cela correspond au chapitre 1 à 5 de la lettre aux Romains. Si les livres, les 66 livres de la Bible sont une chaîne de montagnes, on pourrait peut-être dire que la lettre aux Romains, c'est la montagne la plus élevée. Et dans le chapitre 5, on est arrivé à un sommet d'assurance grâce à l'œuvre de Jésus. Mais il y a un problème. Le péché subsiste dans la vie chrétienne. Et comme dans le prince dans l'histoire, ça risque de miner notre assurance. Est-ce possible d'entretenir une bonne relation avec Dieu? Est-ce possible de faire face à notre péché? Après être monté jusqu'au sommet, est-ce qu'on va au final tomber dans un gouffre? En fait, nous avons vu qu'il y a deux gouffres. Dans le chapitre 6, c'est le laxisme, le danger de se laisser dominer par le péché. Dans le chapitre 7, c'était le légalisme, le danger d'essayer de vaincre le péché par les règles. Et les deux mentalités risquent de miner notre assurance, même de nous entraîner sur le chemin de la mort. Et on marche sur une arête entre les deux gouffres. Alors sur cette arête périlleuse, où est l'assurance? Paul nous a déjà donné les réponses pour nous guider en sécurité tout au long, le long de cette arête. Et on arrive au début du chapitre 8 et on découvre que cette arête nous a amenés gentiment à un sommet même plus élevé que celui du chapitre 5. Vous voyez cela, verset 1 ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Paul introduit le but principal de ce chapitre 8, l'assurance. Une assurance même plus sûre, un sommet même plus élevé que celui du chapitre 5. Et donc si vous regardez le péché dans votre vie et vous avez toujours du mal à croire avec certitude qu'il n'y a aucune condamnation, je sympathise. On est parfois bloqué dans les chapitres 6 et 7, accroché à l'arête. Mais Paul dit, montez jusqu'au sommet. C'est possible, voire essentiel pour la vie chrétienne. Et le chapitre 8 a pour but de nous accorder cette assurance. L'essentiel se trouve déjà dans les deux premiers versets. Vous voyez ça? Il n'y a donc maintenant. Le donc, ça fait référence aux arguments précédents pour expliquer pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et c'est ce qu'il va faire dans un instant, il va nous rappeler tout cela. Mais il ajoute aussi le verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Au cœur de notre assurance se trouve le Saint-Esprit. Car la loi de l'esprit, c'est-à-dire l'œuvre de l'esprit, nous libère du péché. Voici donc l'essentiel ce matin. C'est ça, vos livrets. Soyez rassurés, l'esprit est à l'œuvre. Et nous allons maintenant parcourir les trois grandes explications qui suivent. Et le but de ces explications, c'est d'appuyer le propos central. Soyez rassurés, l'esprit est à l'œuvre. Vous avez les trois explications, sœurs, dans vos livrets. Donc, première explication, versets 3 et 4. Christ a pris votre condamnation. C'est un rappel de ce qu'il a déjà dit dans les chapitres 3 à 5 sur l'œuvre de Christ à la croix. Après tout, ça c'est le fondement pour toutes les explications qui suivent. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ouf, qu'est-ce que ça veut dire? Paul a déjà démontré dans les chapitres 2 et 3 que personne n'est capable d'obéir à la loi à cause du péché. Et c'est pourquoi la chair, c'est-à-dire notre ancienne nature pécheresse, rendait la loi sans force. Elle ne peut pas nous sauver. Mais Dieu a fait ce que la loi ne peut pas faire. Jésus est devenu un être humain comme nous, mais sans péché, afin de mourir à notre place, un sacrifice pour satisfaire la justice et la colère de Dieu sur le péché humain. Dieu a donc déjà condamné notre péché en Jésus sur la croix, afin que, verset 4, la justice de la loi soit accomplie en nous. La loi demandait une punition pour le péché. Jésus l'a satisfaite. La loi demandait la perfection. Jésus nous a rendus parfaits. Et cela, c'est essentiel non seulement pour le salut, mais aussi pour la vie chrétienne. Parce que nous ne sommes toujours pas capables d'atteindre la justice exigée par la loi. Chaque jour, notre péché mérite la condamnation. Mais Jésus est mort pour nos péchés passés, présents, futurs. Il nous a rendus justes pour toujours. Lorsqu'on pêche, ce n'est pas comme si on redevient impur ou comme si on retombe sous la condamnation. Soyez rassurés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, même pas une ombre de condamnation. Vous me dites peut-être, ok, très bien, mais pour moi le problème c'est plutôt que j'ai peur que je vais abandonner Dieu. Écoutez donc la deuxième explication pour notre assurance. Vous êtes libérés de la loi et du péché pour marcher selon l'Esprit. Vous êtes libérés de la loi et du péché pour marcher selon l'Esprit. Le verset 4 dit que Jésus est mort afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Avant d'être chrétien, c'était impossible de vivre d'une manière juste. Mais à cause de la croix, nous sommes non seulement rendus justes, mais l'Esprit vient habiter en nous et nous rend capables maintenant de vivre d'une manière juste. Pourquoi est-ce que c'est si important pour notre assurance ça? Parce que vivre en bonne relation avec Dieu n'est pas facultatif. Ça fait partie de l'offre du salut. Imagine que tu vas chez Proximus pour acheter un nouveau téléphone portable et le téléphone vient normalement avec un abonnement pour que tu puisses avoir accès au réseau mobile, accès à l'Internet. Imagine que tu dis, ah non, 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 je ne veux pas l'abonnement, je veux juste avoir l'objet, je vais faire rien avec, hein, juste pour regarder. Le vendeur va répondre, excusez-moi, mais l'abonnement, c'est compris dans le prix. Si vous n'avez aucune intention d'utiliser l'abonnement, je ne vois pas pourquoi je devrais vous vendre le téléphone. De même, quand Jésus nous a sauvés, c'était pour marcher en amitié avec Dieu. C'est une offre tout compris, si on veut. On ne peut pas dire, non, non, je veux le pardon des péchés, mais je ne veux pas vivre en amitié avec Dieu. Dieu va répondre, ça ne marche pas comme ça. Tu acceptes de vivre en relation avec moi, sinon je ne vais pas pardonner tes péchés. Ce n'est pas qu'on gagne sa faveur par nos œuvres, ce n'est pas ça. Mais si on ne veut pas vivre en amitié avec Dieu, on ne veut pas le pardon des péchés non plus. Le problème, c'est que nous ne sommes pas par nature capables de vivre pour Dieu. Verset 7 dit, « L'affection de la chair, c'est-à-dire les désirs de notre nature pécheresse, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » En théorie, Dieu pourrait très bien nous pardonner, mais s'il ne nous donne aucune capacité de dire non au péché, on resterait hostile. On tomberait de nouveau sous sa condamnation. Peut-être que vous craignez que vous n'avez toujours pas la capacité de résister au péché, que vous allez finir par abandonner Dieu. Je pense que Paul fait écho ici au problème dans le chapitre 6, le laxisme. Tu as déjà entendu ou dit ce genre de propos. Le péché est trop fort pour moi. Je ne peux pas le vaincre. Oh, c'est mon ancienne nature. Dieu m'a laissé comme ça. Je ne peux rien faire. Ou de toute façon, je suis sous la grâce, donc ce n'est pas grave si je pêche. Mais non, Paul a dit. On n'a pas de licence pour continuer à pêcher. Verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça ne veut pas dire que si on commet un péché, on est condamné, bien sûr, c'est pas ça. Mais si on continue à vivre pour le péché, intentionnellement, sans repentance, on ne veut pas être sauvé. C'est donc essentiel pour notre salut, pour notre assurance et pour notre salut tout court, que Dieu nous libère de l'emprise du péché. Et c'est ce qu'il a fait. Chapitre 6, notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée, nous avons été libérés de la domination du péché, on a maintenant envie de vivre en conformité avec notre nouvelle nature pour servir notre nouveau maître. Et le chapitre 8 va plus loin, nous avons l'Esprit. verset 5, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'esprit nous donne un nouveau désir de vivre pour Dieu. Pas parfaitement, bien sûr, mais la direction globale de nos vies a changé. Nous ne marchons plus sous la domination du péché, mais sous la direction de l'esprit. Paul fait aussi écho au problème dans le chapitre 7, le légalisme. Nous avons vu la semaine passée que le chapitre est débattu, mais Paul fait probablement référence aux Juifs qui approuvaient la loi en principe, mais à cause du péché, ils n'étaient jamais capables de la respecter. Il y a des avis divergents ici. Nous sommes tous d'accord que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. Mais Satan dirait que nous devons maintenant respecter la loi de Moïse, ou au moins les lois dites morales, pour grandir dans la sainteté. Personnellement, je pense que Paul nous met en garde contre cette approche. Nous avons vu dans chapitre 7 et verset 6 que le service de la loi a été remplacé par le service selon l'esprit. Certains diraient oui, mais la différence c'est que l'esprit nous aide maintenant à obéir à la loi. Et si c'est votre position, je la respecte. Nos deux positions ne sont pas sont assez proches, je pense. C'est subtil. Mais je pense quand même que Paul dit que même avec l'esprit, la loi ne marche pas. La loi est bonne, mais nous n'arrivons jamais à vivre d'une manière juste en suivant des règles écrites. Au contraire, des règles ont tendance à provoquer le péché. Par exemple, on voit un panneau sur la route, 50 km par heure. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? 55. Ou on se dit, oh, ok, je vais rouler à 50, mais 50 piles, à tout moment, c'est mon droit. Et on s'en fiche de ce virage avec les enfants sur le trottoir, où ce serait plus sage de faire 30. Vous voyez, on s'en fiche de la justice et de la bonté. On veut juste avoir le maximum de liberté personnelle tout en étant satisfait qu'on a coché la case de la loi. Mais si on nous dit plutôt, attention, il y a des enfants dans ce quartier. Au lieu de suivre la loi à la lettre, on va utiliser notre bon sens, notre compassion pour conduire à une vitesse sage. Ou imagine que j'ai une liste de règles affichées à ma porte. Je la regarde le matin. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. C'est une très bonne règle. Mais au pire des cas, cette règle sème en moi le désir de désobéir. Au plus probable, je vais suivre la règle à la lettre et je serai satisfait de moi-même d'avoir coché la case. Et on pense avoir obéi à la loi sur l'adultère. Mais on se permet le droit de regarder une femme avec convoitise. Dieu ne veut pas que nous crochions la case, mais que nous l'aimions et aimions nos prochains avec tous nos cœurs. Et cela nous ramène à la vie dans l'esprit. L'esprit nous libère de la loi, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour se donner entièrement à Dieu et à nos prochains. Il dirige nos regards vers la beauté de la grâce de Dieu, vers la beauté de la sainteté, et nous rend nos cœurs désireux de vivre pour Dieu entièrement. Et l'ironie, vous voyez ça verset 4, c'est que lorsqu'on vit comme ça, on finit par accomplir la justice que la loi exigeait. Pour revenir en arrière, pourquoi est-ce que tout ça c'est important? Pour l'assurance. Rappelez-vous que vivre en bonne relation avec Dieu, ça fait partie intégrale de l'offre du salut. Si on n'était pas libéré de la domination du péché, de la loi, ce serait impossible de vivre cette nouvelle vie. Mais Dieu nous a donné la capacité de vivre en bonne relation avec lui. Nous n'allons pas abandonner Dieu d'une manière définitive. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Soyez rassurés, l'Esprit est à l'œuvre. Paul martèle cette assurance dans le verset 9. Il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Son but ici, je ne pense pas que c'est de nous faire peur, mais plutôt de nous rassurer. Tout être humain, depuis le moment de sa naissance, on respire. Et je vois très bien que vous respirez ce matin, je pense. C'est un signe sûr que vous êtes né, vous êtes vivant maintenant. De même, tout chrétien est habité par l'Esprit, le souffle de Dieu, depuis le moment de sa conversion. Il n'y a pas de deuxième baptême où on reçoit l'Esprit. Si tu essaies de vivre selon l'Esprit, pas parfaitement bien sûr, mais la direction générale de sa vie, c'est un signe sûr que l'Esprit habite en toi, que tu es né de nouveau, que tu appartiens à Christ. C'est parfois difficile à vivre selon l'Esprit, bien sûr. Notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ, mais les anciens désirs, les anciennes habitudes persistent dans nos corps mortels, verset 10. Mais l'Esprit est à l'œuvre en nous pour nous aider à vivre conformément à notre nouvelle vie spirituelle. Si toi qui étais autrefois spirituellement mort, toi qui es toujours dans ce corps mortel avec ses anciens désirs pécheurs, si tu essaies quand même de vivre pour Dieu, c'est un miracle. L'Esprit t'a donné une nouvelle vie spirituelle. Et soyez rassurés, l'Esprit est à l'œuvre. Avec cette assurance vient aussi une exhortation, bien sûr. Verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il ne veut pas dire que si on commet un péché, c'est fini. Au contraire, il nous a déjà rassuré que Jésus a pris notre condamnation et nous ne devons pas avoir peur si on commet un péché. Mais, comme nous avons vu, vivre en bonne relation avec Dieu, ça fait partie intégrale de l'offre du salut. Et si je me détourne donc de Dieu d'une manière définitive, oui, je serai perdu. C'est pourquoi il faut prendre tout péché au sérieux, même les petits. Chaque péché est un pas sur le chemin qui mène dans la direction de la mort. Oui, ok, un pas dans cette direction ne va pas me tuer, mais si on sait que c'est le chemin de la mort, pourquoi est-ce qu'on mettrait même un seul pas sur ce chemin? Après tout, un pas pourrait mener à un deuxième pas, un troisième pas. C'est pour ça que nous devons tuer le péché avant qu'il ne nous tue. Nous devons lutter. Et c'est dur car les anciens désirs sont forts. Mais l'assurance est toujours à l'ordre du jour ici. Rappelons-nous, nous avons l'Esprit avec nous. Nous allons remporter la victoire. Nous n'allons pas pouvoir nous débarrasser de tous nos péchés dans cette vie. Bien sûr, on ne vit pas dans le triomphalisme. Il y aura des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Mais de petit à petit, avec l'aide de l'Esprit, on va avancer sur ce chemin, le chemin qui mène à la vie, non celui qui mène à la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Soyez rassurés, l'Esprit est à l'œuvre. Il reste encore une explication pour notre assurance. Vous êtes fils et héritier de Dieu. Vous êtes fils et héritier de Dieu. J'ai dit que le début du chapitre est comme le sommet, un nouveau sommet sur la montagne. C'est possible que les versets 14 à 17 soient un sommet encore plus élevé, peut-être même le sommet de toute la lettre, peut-être même le sommet de toute la Bible, je ne sais pas, mais c'est magnifique en tout cas. Verset 14, nous sommes fils de Dieu. Paul a déjà dit que parce que Jésus nous a justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Depuis notre conversion, pour toujours, on vit en amitié avec Dieu. Mais il y a une vérité même plus époustouflante ici. Nous sommes ses enfants adoptés. L'adoption, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à l'adoption, mais c'est un événement légal vraiment remarquable. Ma belle-sœur était adoptée en tant qu'enfant. La famille qui l'a adoptée avait déjà un fils naturel, biologique, mais elle a été accordée le même statut que son frère, le même privilège, le même amour, la même sécurité. Du point de vue légal, elle est exactement comme son frère. Aucune différence entre l'enfant naturel et l'enfant adopté. Ça, c'est nous. Dieu a déjà un fils naturel. Hein? Et Jésus reste supérieur à nous dans sa divinité, bien sûr. Mais Dieu nous a accordé les mêmes privilèges, le même amour, la même sécurité que son propre fils. Et verset 17, le même héritage que Jésus. Et c'est pourquoi Paul nous appelle fils au lieu d'enfant. C'est pas sexiste ça. C'était le fils aîné qui gagnait l'héritage. C'est son fils Jésus qui gagnait l'héritage. Mais nous tous, hommes ou femmes, nous sommes des fils, des héritiers. Un jour vient dans le nouveau monde que Dieu va créer où nous serons glorifiés avec Jésus, où Dieu déversera sur nous toute bénédiction imaginable, spirituelle et matérielle. Et avant tout, le glorieux privilège d'être accueilli dans la présence de notre Père pour toujours, assis à table avec son Fils, ses enfants chéris, pour toujours. Et si Paul nous dit cela, c'est encore une fois pour notre assurance. Verset 15, nous n'avons pas le statut de simples serviteurs qui ont peur d'être virés s'ils n'accomplissent pas leur travail. Non, nous sommes ses enfants. Un enfant, dans une famille heureuse en tout cas, ne craint pas qu'il va être mis dehors lorsqu'il fait des bêtises. Il va peut-être être discipliné pour corriger son comportement, mais il ne va pas être chassé. Il a toujours une relation privilégiée. L'amour de ses parents, la sécurité. Il ne va pas perdre son héritage non plus. C'est comme ça maintenant entre nous et notre Père céleste. Et vous avez remarqué aussi que l'adoption ici est fortement reliée à l'œuvre de l'Esprit. Nous avons vu que si nous vivons selon l'Esprit, ça devrait nous rassurer que nous avons vraiment l'Esprit, nous appartenons vraiment à Christ. Dans le verset 14, Paul dit que si nous vivons selon l'Esprit, c'est aussi un signe que nous sommes fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'être un enfant de Dieu implique aussi une nouvelle façon de vivre. Cela nous rappelle encore une fois que vivre pour Dieu fait partie intégrale de l'offre du salut. Et quand un enfant est adopté, il y a toutes sortes d'implications. L'enfant doit aller vivre avec ses nouveaux parents. Il doit prendre le nom. Il doit obéir à ses parents. Il doit apprendre à vivre comme un membre de la famille. Et si l'enfant ne veut pas tout ça, il n'a pas envie d'être adopté. Hein. Dieu nous a adoptés afin que nous vivions désormais en proximité avec notre Père. Que nous lui obéissions, que nous nous comportions comme son propre fils. Vous voyez, les fils de Dieu ont un mandat. Tu ne peux pas être un fils de Dieu sans aussi être un soldat. Tous les vrais fils sont en guerre contre tout ce qui ne plaît pas à leur père. Il y a un avertissement ici, c'est vrai. Si nous prétendons avoir l'esprit et être fils de Dieu, nous devons accepter ce mandat qui va avec. Nous devons souffrir avec Jésus, comme le dit le verset 17. 17. Sinon, nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous ne gagnerons pas cet héritage glorieux. Mais je pense que le but principal est toujours l'assurance ici. Est-ce que tu essaies de combattre le péché et de vivre selon l'esprit? Oui, on tombe souvent. On peut même passer par des périodes de défaite. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a une bataille dans ton cœur? Tu penses que la bataille est un signe qu'il y a un problème? Mais non, c'est la preuve que tu es un vrai fils de Dieu. Un non-chrétien ne lutte pas du tout. Est-ce que tu es parfois dans une bataille si intense, si difficile, que tu ne sais même pas comment t'en sortir? Est-ce que ça t'arrive de crier vers Dieu, « Père, au secours !» C'est un signe encore plus certain que tu es un fils. Je pense que ça, c'est le sens des versets 15 et 16. Lorsque nous crions « Abba, Père !» au cœur de la bataille, c'est là que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça, si c'est ça ton cri, prends courage. Tu as l'Esprit, tu es un fils de Dieu, tu vas gagner l'héritage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Soyez rassurés, l'Esprit est à l'œuvre. Dans l'histoire, au début, l'orphelin qui est devenu un prince manquait de l'assurance. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour être rassuré? Il devrait se rappeler que le roi a vraiment payé le prix pour ses crimes. Il devrait regarder le changement qui a eu lieu dans sa vie, son nouveau palais, ses nouveaux habits. Oui, les anciens désirs restent, mais il a choisi cette nouvelle vie. Chaque matin, il se réveille quand même des habits royaux. Il devrait se rappeler qu'il n'est plus un orphelin rebelle sous la loi, mais un prince sous la faveur de son papa, un fils adopté du roi avec un héritage glorieux. Et s'il y a un conflit dans son cœur, c'est parce qu'il sait qu'un prince ne devrait pas se comporter ainsi. Tout d'un coup, il a envie de courir vers son papa. Et son papa le tient dans ses bras. « Tu es mon fils. Il ne faut plus avoir peur. N'abandonne pas. » L'assurance commence à monter dans son cœur. Et avec l'assurance, la motivation aussi. « Oh, mon papa m'aime. J'ai envie de lui plaire. L'orphelin rebelle, ce n'est plus moi. » J'ai envie de me comporter comme le fils, comme le prince que je suis. Essayer de suivre les règles, j'en ai marre. Je veux donner mon cœur à mon papa. J'ai un héritage glorieux. Pourquoi est-ce que je voudrais retourner à mon ancienne vie? Vous voyez comment ça marche? Et qu'est-ce qui risque de miner ton assurance? Lors de notre journée d'église hier, on était dans le sujet du mariage. Si ce n'est pas une lutte pour toi, Tu peux imaginer les luttes que tu as dans ta vie, mais je prends un exemple du mariage. Tu es découragé, tu n'arrives pas à maîtriser ta langue lors des disputes avec ta femme ou ton mari. Parfois, tu as mal à t'empêcher d'aller regarder certains sites web qui ne sont pas appropriés. Et parfois, tu es momentanément satisfait parce que tu as fait le nécessaire, Tu as acheté un bouquet de fleurs pour sa femme lors de son anniversaire, bravo moi. Mais ça ne semble rien changer, car elle se plaint toujours que tu ne passes pas assez de temps avec elle. Tu te sens coupable devant Dieu, rien ne semble marcher. Concrètement, que faire pour être plus rassuré et plus motivé? D'abord, regarde à Jésus qui a pris la condamnation pour tous tes péchés. Passé, présent, futur. Puis regarde le changement qui a eu lieu dans ta vie. Oui, les anciens désirs sont forts, mais tu as choisi Jésus. Tu l'aimes, tu luttes quand même pour te revêtir des nouvelles habitudes. Rappelle-toi que l'Esprit est en toi, il lutte avec toi. Rappelle-toi aussi que qui tu es, ton ancienne nature a été crucifiée. Tu n'es plus sous le péché, sous la loi, mais tu es sous la grâce. Tu as un nouveau maître. Tu es son fils bien-aimé et un héritage glorieux. t'attend. Et cours vers Dieu, crie « Abba, Père, au secours !» L'assurance commence à monter. Et avec l'assurance, la motivation. « Oh, mon Père m'aime, j'ai envie de lui plaire. » Ce n'est plus moi, l'homme qui est dur avec sa femme. L'homme qui regarde la pornographie, c'est plus moi. Il a été crucifié. Moi, j'ai envie de me comporter comme le fils royal que je suis. Je dois tuer le péché. Je vais me taire avant que ma langue dise quelque chose que je vais regretter. Je vais installer un logiciel sur mon téléphone pour que je ne regarde pas ces sites web. Je vais tuer le péché. Et essayer de cocher les cases avec un bouquet de fleurs. J'en ai marre. Je veux donner mon cœur, ma vie à Dieu et à ma femme. Je suis en route pour le ciel après tout. Pourquoi est-ce que je voudrais retourner à mon ancienne vie? Mes amis, dans tout cela, c'est l'Esprit à l'œuvre. Soyez rassurés et soyez motivés. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce texte magnifique qui nous rassure de notre statut. Que Jésus a pris notre condamnation, que nous avons une nouvelle vie dans l'Esprit, que nous sommes libérés de la domination du péché et de la loi, et que nous sommes fils, héritiers de Dieu. Aide-nous si nous sommes découragés, si nous manquons d'assurance, si nous manquons de motivation. Aide-nous à courir vers toi, Abba Père, être rassurés que nous sommes tes fils, nous sommes sur le chemin qui mène à la vie. Donne-nous de la motivation à tuer le péché dans nos vies, à vivre comme les fils que nous sommes. Et nous attendons ce jour glorieux où nous serons avec toi, tes fils, tes héritiers, dans un monde où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de crainte ni doute. On prie au nom de Jésus. Amen.